11. Il se fixe à Rhodes, ses occupations. Il demande la permission de revenir, qui lui est refusée. D'Hostie, il allait côtoyant les bords de la compagnie lorsqu'il apprit que la santé d'Auguste s'affaiblissait. Il s'arrêta quelques jours, mais le bruit qu'il ne différait son départ que pour voir s'accomplir les plus grandes espérances étant accrédité de plus en plus, il s'embarqua pour Rhodes, par un temps peu favorable. Il avait été charmé de l'agrément et de la salubrité de cette île, où il avait abordé à son retour d'Arménie. Il se contenta d'un logement modeste et d'une maison de campagne, qui n'était guère plus grande, et vécut comme le plus simple citoyen, se promenant de temps en temps dans les gymnases, sans licteur, sans huissier, et entretenant avec les Grecs un échange de devoirs mutuels, presque sur le pied de l'égalité. Un matin, en réglant les occupations de la journée, il lui arriva de dire qu'il voulait visiter tous les malades de la ville. Ceux qui l'entendirent l'interprétèrent différemment, et l'on ordonna de porter tous les malades dans une galerie publique, où ils furent disposés par genre de maladie. Frappé de ce spectacle imprévu, il demeura longtemps incertain. Enfin, il s'approcha de chacun en faisant à tous, même à ceux durant le plus bas et aux inconnus, des excuses de cette méprise. On a remarqué qu'une seule circonstance où il parut exercer la puissance tribunicienne. Comme il fréquentait les écoles et qu'il assistait aux conférences des professeurs, il intervint un jour dans une discussion fort chaude entre des sophistes. L'un d'eux, le croyant favorable à son adversaire, s'emporta contre lui en propos injurieux. Tibère retourna chez lui sans rien dire, reparut tout à coup avec des huissiers, cita devant son tribunal, par un crieur public, celui qui l'avait insulté, et le fit traîner en prison. Bientôt, il apprit que sa femme Julie avait été condamnée pour ses désordres et ses adultères. Et que de sa propre autorité, Auguste lui avait notifié le divorce en son nom. Quoique charmé de cette nouvelle, il crut devoir écrire lettre sur lettre pour apaiser le père envers sa fille et obtenir qu'il lui laissât tous les dons qu'il lui avait faits, quelque indigne qu'elle en fût. Lorsque le temps de sa puissance tribunicienne fut écoulé, il avoua enfin qu'en s'éloignant, il n'avait eu d'autre but que d'éviter le soupçon de rivalité avec Caius et Lucius. Et, comme il était tranquille de ce côté, depuis que l'âge leur assurait la possession facile de la seconde place, il demanda qu'il lui fût permis de venir renouer les liaisons qu'il regrettait. Mais ce fut en vain. On lui fit même entendre qu'il ne devait plus songer en aucune façon au sien qu'il avait quitté avec tant d'empressement. 12. Son séjour forcé dans cette île, ses terreurs et sa lâcheté. Il demeura à Rhodes malgré lui, et obtint à peine, pour le crédit de sa mère, donc Auguste, pour couvrir cet affront, lui donna à Rhodes la qualité de son lieutenant. Depuis ce moment, il vécut non seulement en homme privé, mais en homme suspect et craintif, se cachant dans l'intérieur de l'île, se dérobant aux hommages de ceux que leur direction y faisait aborder, et dont il recevait jusqu'alors de fréquentes visites. Car tous ceux qui étaient investis d'un commandement ou d'une magistrature ne manquaient pas de s'arrêter à Rhodes. Il lui survint encore de plus grands sujets d'inquiétude. Il s'était transporté à Samos pour y voir Gaius, son beau-fils, qui commandait en Orient. Il s'aperçut que les insinuations de Marcus Lollius, compagnon et gouverneur du jeune prince, l'avaient tourné contre lui. On le soupçonna aussi d'avoir donné des instructions équivoques à des centurions de sa création qui revenaient de congé pour gagner leur camp, et d'avoir tenté de sonder leurs dispositions sur un changement prochain. Informé de ses reproches par Auguste, il ne cessa de demander qu'on lui donnât un surveillant, de quelque ordre qu'il fût, et qui épirait ses actions et ses paroles. 13. Mépris qu'il inspire, fin de son exil. Il renonça même à ses exercices ordinaires des armes et du cheval, quitta l'habit romain et se réduisit au manteau et aux sandales. Il resta près de 2 ans dans cet état, de jour en jour plus odieux et plus méprisé, au point que les habitants de Nîmes détruisirent ses portraits et ses statues, et que, dans un repas intime où il était question de lui, quelqu'un proposa à Caius de partir sur le champ pour Rhodes et de lui rapporter la tête de l'exilé, car c'était ainsi qu'on l'appelait. Ce ne fut donc plus la crainte, mais le danger qui le força de joindre ses vives supplications à celles de sa mère pour solliciter son retour. Il l'obtint, et le hasard ne fut pas étranger à cette faveur. Auguste avait résolu de ne rien décider dans cette affaire que d'après la volonté de son fils aîné. Comme celui-ci se trouvait alors indisposé contre Marcus Lollius, il se montra d'autant plus indulgent et facile envers son beau-père. L'exilé fut donc rappelé du consentement de Gaius, mais sous la condition qu'il ne se mêlerait en rien du gouvernement. 14. Ses espérances, prodige qui avait annoncé sa grandeur future. Il revint à Rome après 8 ans de retraite, avec un grand et ferme espoir dans l'avenir, que des prodiges et des présages lui avaient fait concevoir dès l'âge le plus tendre. Dans sa grossesse, Livie, voulant savoir par divers présages si elle accoucherait d'un garçon, réchauffa tour à tour de ses mains et de celles de ses femmes un œuf dérobé à la couvée d'une poule. Il en sortit un poulet avec une superbe crête. Le devin Scribouillère avait promis de grandes destinées à cet enfant, et assurait même qu'il régnerait un jour, mais sans les insignes de la royauté, car la puissance des Césars était encore inconnue. Au commencement de sa première expédition, il conduisait son armée par la Macédoine pour aller en Syrie. À Philippe, les hôtels consacrés par les légions victorieuses parurent tout à coup s'enflammer. Bientôt après, en allant à Illyrie, il consulta près de Padoue l'oracle de Guérillon, qui lui dit de jeter des dés d'or dans la fontaine d'Aponus pour obtenir une réponse à ses consultations. Or, il amena tout d'abord le nombre le plus élevé. On voit encore aujourd'hui ces dés au fond de l'eau. Peu de jours avant son appel, un aigle, on n'en avait point encore vu à Rhodes, se percha sur le faîte de sa maison. La veille du jour où il en reçut la nouvelle, comme il changeait d'habit, sa tunique lui parut tout en feu. Ce fut alors qu'il connut tout le savoir du devin Thrasyle, qu'il avait pris dans sa maison en qualité de maître de philosophie. Thrasyle lui avait certifié que le vaisseau qu'il avait aperçu lui apportait des nouvelles heureuses, dans le moment même où Tibère, qui voyait les événements s'aggraver et démentir ses prédictions, et qui se repentait de l'avoir initié à ses secrets, sur la foi d'une science mensongère, venait, en se promenant à lui, à se résoudre à le faire jeter à la mer. 15. Son retour à Rome, sa conduite prudente. De retour à Rome, il fit débuter son fils Drusus dans le Forum. Aussitôt après, il quitta les Carènes et la maison de Pompée pour se loger aux Esquilles, dans le jardin de Mécène. Là, il se livra entièrement au repos, se bornant au devoir d'un particulier sans s'occuper d'aucune charge publique. Caius et Lucius étant morts dans l'espace de 2 ans, il fut adopté par Auguste en même temps que leur frère Marcus Agrippa. Toutefois, après avoir été contraint lui-même d'adopter Germanicus, le fils de son frère. Dès ce moment, on ne le vit plus agir en chef de famille. Il ne retint aucune partie du droit que son adoption lui avait enlevé. Il ne fit aucune donation, aucun affranchissement. Il ne reçut même d'héritage et de legs qu'à titre de pécule. Désormais, on n'omit rien pour relever sa dignité, surtout depuis qu'Agrippa, repoussé par Auguste et éloigné de Rome, eut fait tomber sur Tibère seul l'espérance de succéder à l'Empire. 16. Ses exploits militaires. On lui conféra de nouveau la puissance tribunicienne pour 5 ans. Il fut chargé de pacifier la Germanie. Les ambassadeurs des Parthes, après avoir accompli leur mission à Rome auprès d'Auguste, reçurent l'ordre de se rendre près de Tibère dans son gouvernement. Dès qu'il eut appris la défection de l'Illyrie, il y passa et se chargea du soin de cette nouvelle guerre qui, depuis celle de Carthage, fut la plus terrible de toutes les guerres extérieures. Il la fit pendant 3 ans, avec 15 légions et un pareil nombre de troupes alliées, au milieu des difficultés de toute espèce et malgré la disette absolue de Crin. Quoi qu'on le rappela souvent, ils n'ont poursuivi pas moins ces opérations, de peur qu'un ennemi voisin et puissant ne profita de sa retraite pour le harceler. Il fut grandement récompensé de sa persévérance, puisqu'il soumit et ajouta à l'Empire toute l'Illyrie, située entre l'Italie, le royaume de Norique, la Thrace et la Macédoine, depuis le Danube jusqu'au golfe Adriatique. 17. Honneur qu'on lui décerne. Ce fut surtout l'opportunité de ce succès qui mit le comble à sa gloire. Car, vers le même temps qu'Antilius Varus périt en Germanie avec 3 légions, et nul ne douta que les Germains vainqueurs ne se fussent joints aux Pannoniens, si avant ce désastre, l'Illyrie n'eût été conquise. On lui décerna le triomphe avec une infinité de grands honneurs. Des sénateurs furent d'avis qu'on le surnomma le Pannonique, d'autres l'Invincible, quelques-uns le pieux. Mais Auguste s'y opposa, en disant qu'il devait se contenter du surnom qu'il lui laisserait après sa mort. Le deuil qui avait répandu dans Rome la défaite de Varus fit différer le triomphe de Tibère. Il y entra néanmoins en robe prétexte et couronné de lauriers. Il monta sur le tribunal qu'on lui avait élevé au Champ de Mars, où il s'assit avec Auguste entre les deux consuls, tandis que le Sénat était debout. De là, il salua le peuple et le cortège visita les temples. 18. Nouvelle expédition en Germanie, ses talents pour la guerre. L'année suivante, il retourna en Germanie. Comme il n'attribuait la défaite de Varus qu'à sa négligence et à ses témérités, il n'en fit rien sans l'avis de son conseil. Lui qui, jusque-là, ne consultait que sa volonté et ne s'en rapportait qu'à lui seul, communiqua pour la première fois ses plans à plusieurs et redoubla de vigilance. Prêt à passer le Rhin, il restreignit les bagages à une certaine mesure et ne permit le passage qu'après s'être arrêté au bord du fleuve pour vérifier la charge des chariots et empêcher qu'ils n'emportassent rien d'inutile et de défendu. Au-delà du Rhin, il se fit une habitude de ne jamais manger que sur le gazon et d'y coucher souvent sans faire usage de tente. Il donnait toujours ses ordres par écrit, soit pour le lendemain, soit quand il survenait quelque chose à faire exécuter sur le champ. Il ajouta que, s'il s'élevait quelques doutes, on ne recourut à nul autre qu'à lui, à quelque heure que ce fût du jour ou de la nuit. 19. Sa sévérité, ses superstitions. Il maintint sévèrement la discipline, et remettant en vigueur toutes les peines et toutes les flétrissures de l'Antiquité, il dégrada ignominieusement un chef de légion pour avoir envoyé quelques soldats chassés au-delà du fleuve avec son affranchi. Quoiqu'il accordât fort peu aux chances du hasard, il livrait bataille avec une grande confiance. Lorsque, dans ses veilles, sans nulle cause étrangère, sa lumière s'affaiblissait, s'éteignait d'elle-même, présage qui, dans toutes les campagnes, n'avait, disait-il, jamais trompé ni lui ni ses ancêtres. Mais un jour qu'il avait remporté un avantage, peu s'en valut qu'il ne fût assassiné par un bructère que son trouble fit remarquer parmi ceux qui entouraient Tibère et qui avoua dans les tourments le crime qu'il méditait. 20. Son triomphe, il est adopté par Auguste. Après être resté 2 ans en Germanie, il revint à Rome et y célébra le triomphe qui y avait différé. Il était accompagné de ses lieutenants, auxquels il avait fait accorder des habits triomphaux. Avant de se diriger vers le Capitole, il descendit de son char et se jeta aux genoux de son père qui présidait à la cérémonie. Il établit à Ravenne et combla de riches présents Bâton, chef pannonien, qu'il avait laissé échapper d'un défilé où il était enfermé avec ses légions. Il fit dresser 1000 tables pour un festin public et donna aux citoyens 300 sesterces par tête. Avec les prix des dépouilles de l'ennemi, il dédia un temple à la Concorde, un autre à Castor et Pollux, au nom de son frère et au sien.